Bienvenue sur le cours de F6KGL, et donc la séance de ce soir porte sur la deuxième partie du chapitre 1, et on va voir un sujet sur lequel il y a systématiquement au moins deux questions, voire trois. Les classes d'émission, il y a au moins deux questions, et les conditions techniques, il y en a souvent une. Donc on va voir ça sur ce quoi portent les questions. Les questions, elles portent... Alors, dans les comptes rendus, souvent, il y a deux questions qui portent sur les classes d'émission. Et là, il y a plusieurs manières de présenter les questions qu'on va voir après. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que vous devez savoir ce que vous faites quand vous passez en émission. Donc, vous devez savoir quelle classe d'émission vous allez utiliser quand vous passez en émission. Alors, évidemment, si vous avez un petit pocket, la plupart du temps, vous savez, il y a marqué, quand vous avez acheté le matériel, il y a marqué FM. Donc, vous dites, ça doit être de la FM. Et voilà, donc de la FM, de la téléphonie. Et donc, on va voir comment ça se code. Mais finalement, vous allez apprendre quand vous allez voir la partie technique que quand on parle de modulation de fréquence, en fait, la plupart du temps, on est plutôt en modulation de phase. Ce qui, auditivement, n'a aucune importance. L'oreille ne fait pas la différence entre la modulation de fréquence et la modulation de phase. En revanche, si vous utilisez derrière un système du style, une clé SDR ou que sais-je, pour démoduler votre signal, il va bien falloir lui dire soit fréquence, soit phase, parce que le système ne va pas du tout réagir de la même manière. Donc, les classes d'émission, elles sont définies dans l'ERR. Donc ça, c'est une définition internationale. Tout le monde utilise la même codification. Alors, ce n'est pas dans le bouquin du RR, donc dans toutes les sections, dans tous les articles, c'est ce que l'on appelle les appendices. Alors, appendices en anglais, j'aurais traduit ça par annexe en français. Bon, c'est appendix en anglais qui a été traduit par appendice en français, mais j'aurais plutôt appelé ça des annexes. Et donc, des classes d'émission, c'est l'annexe 1 du RR. Donc, en fait, l'annexe 1, elle complète les articles qui sont définis dans le gros bouquin où il y a tous les articles. Quand on est dans les annexes, c'est du concret, quoi. On va en voir une deuxième tout à l'heure. L'appendice 1 ou l'annexe 1 du RR, elle définit les classes d'émission avec trois caractères, mais on va voir que le RR a prévu des informations complémentaires qui ne sont pas utilisées par les radioamateurs, mais par contre qui sont utilisées notamment par les professionnels. Ou pour coder une classe d'émission sur un appareil. Donc il y a un peu plus d'informations, on va les voir après. Jusqu'en 2012, on avait droit à utiliser que ce pavé au-dessus, tout ce qui n'est pas encadré en rouge. Et donc on était limité en tant que classe d'émission. Il y avait 36 classes d'émission, puisqu'il y a des possibilités, des combinaisons qui ne sont pas possibles entre la lettre, le chiffre et la deuxième lettre. On va voir pourquoi. Et depuis 2012, on a droit donc à toutes les classes d'émission, sans exception, et donc on a rajouté tout ce qui est ici encadré en rouge, et vous allez voir qu'il y a des classes d'émission, enfin tout au moins qu'il y a des classes d'émission qui ne sont pas utilisés par les radioamateurs. Hein, pas utilisés, ça ne veut pas dire pour autant pas autorisés. Donc, une classe d'émission, ça se définit par trois caractères, une lettre, un chiffre, une lettre. C'est toujours comme ça. La première lettre, elle indique toujours la modulation de la porteuse. Alors, ça, c'est peut-être quelque chose qui est compliqué pour vous, tant que vous n'avez pas vu la partie technique. Mais, désolé, on ne verra quelle forme prend la porteuse, on va le voir un tout petit peu tout à l'heure, quelle forme prend une porteuse en amplitude ou en phase ou en BLU. Voilà. Ou les mélanges ici, amplitude et angulaire, etc., etc. Donc ça, la première lettre, c'est la modulation de la porteuse. Comment module-t-on la porteuse pour transmettre le signal, transmettre l'information. Le deuxième caractère, c'est un chiffre. Et ce chiffre, ça va indiquer le signal modulant, c'est-à-dire que on a la porteuse qui est modulée, et elle est modulée avec un signal modulant. Et quelle est la forme du signal modulant? Donc ici, c'est le deuxième caractère qui est le chiffre, et le dernier caractère, c'est le type d'information transmise. Donc il y a différents, on envoie différentes informations. Voilà. Et donc une classe d'émission se définit par le type de modulation, le signal modulant et l'information transmise. On va voir toutes ces classes d'émission. Évidemment, il faut connaître cette table. Alors, ce que j'ai encadré en rouge, quoique j'ai vu quelques questions, notamment ici dans la partie signal modulant, et ici amplitude et angulaire qui étaient auparavant non autorisés avant 2012, alors que c'est le béaba de tous les modes de transmission numérique actuels. Donc on va aller voir toutes les modulations de porteuses. On a trois types quasi similaires A, B et C. Alors ce que j'ai mis en italique là, ce sont les types de modulation ou les informations transmises qui ne sont quasiment pas utilisées par nous radioamateurs. Typiquement, la bande latérale ici avec l'amplitude avec bande latérale indépendante, ce n'est pas utilisé par les radioamateurs. C'est très compliqué à mettre en œuvre et donc ce n'est pas utilisé par les radioamateurs. En revanche, en modulation d'amplitude, on peut avoir le A, la modulation d'amplitude classique avec les deux bandes latérales, ou alors lorsqu'on a des informations très très denses et qu'on est en modulation d'amplitude, en fait, on va avoir nécessairement besoin d'une bande passante très importante. Et si on a une bande passante très importante, on risque d'avoir nos bandes latérales qui vont être tronquées. Et c'est pour ça qu'on appelle ça modulation d'amplitude avec bande latérale résiduelle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas complète, comme ici, double bande latérale, elle est un peu tronquée aux extrémités. Et on va utiliser ça notamment pour la télévision. Parce que la télévision, ça nécessite beaucoup d'informations. Et donc, quand on est en amplitude, la quantité de largeur de bande, c'est deux fois la bande passante utilisée. Donc si on a 1 MHz de bande passante utilisée pour la télévision, eh bien en modulation d'amplitude, on va utiliser 2 mégas de bande passante, ce qui est énorme, surtout sur des petites bandes. Donc la télévision est absolument impensable sur les fréquences inférieur à 430 mégas. Hein, sur le 144, on a 2 mégas, donc si on envoyait une émission de télévision, ça occuperait toute la bande, et plus personne ne pourrait l'utiliser pour autre chose. Donc voilà, c'est un peu gênant. Donc voilà, A, amplitude, ça va. B, amplitude avec bande latérale indépendante, et C, amplitude avec bande latérale résiduelle. Donc il n'y a que le A qui est à peu près logique. Ensuite, on arrive à des modulations dites angulaires, c'est-à-dire que ce que je fais varier, ce n'est plus l'amplitude, c'est la fréquence ou la phase. Et donc là, ce sont des modulations dites angulaires. On verra dans la partie technique à la fin, chapitre 12, donc au mois de juin, mai-juin, ce qu'est la modulation de fréquence, ce qu'est la modulation de phase. En fait, je fais soit bouger la phase par rapport à la porteuse, soit la fréquence par rapport à la porteuse. Et donc F, modulation de fréquence, c'est bon, ça marche. G, modulation de phase, là, j'ai pas de moyen mnémotechnique. Et ensuite, on a deux modulations d'amplitude un petit peu, trois modulations d'amplitude un petit peu bizarres. C'est de la modulation d'amplitude où je n'envoie qu'une seule bande latérale. On verra ça un petit peu après. Je vous présente rapidement ce que c'est que de la M, de la BLU, de la FM et de la modulation de phase et du morse. Il faut attendre un petit peu. Ma BLU, soit j'ai une BLU pure, je dirais, où la porteuse est supprimée. J'ai une BLU un peu moins pure où la porteuse est réduite seulement. Et une BLU pas utilisée par les radioamateurs, mais essentiellement en maritime, en HF maritime, tout au moins c'était utilisé. Et donc c'est de la BLU avec une porteuse complète. On laisse la porteuse et une seule bande latérale. Alors que là, en AM, j'ai mes deux bandes latérales. On va voir ce que ça veut dire tout à l'heure. Donc, le H, c'est de la modulation d'amplitude porteuse complète. Le D, alors là, il faut le savoir, c'est le D qui s'intercale quand on voit ici entre le C et le F. Donc, le D, c'est amplitude et angulaire. Alors, je l'ai mis en dessous parce que ce sont les codes qui ont été autorisés depuis 2012. Mais la logique voudrait que ce soit ici entre le C et le F, puisque c'est à la fois amplitude et angulaire. Vous remarquez que je n'utilise pas le E. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'utilise pas le E. Ici, j'ai vraiment tous les types de modulation prévus par le RR. Et le RR ne prévoit pas de E. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Ensuite, on a des modulations très particulières. Ce sont les trains d'impulsion, qui peuvent être aussi modulés en amplitude, en fréquence, en phase, en amplitude et en phase, enfin voilà. Ou amplitude et fréquence. Donc, ce sont des trains d'impulsion. Concrètement, c'est quoi ? C'est j'envoie une impulsion très courte, du style une impulsion radar. Évidemment, nous, radioamateurs, on n'utilise pas ces types de modulation, mais voilà, ce tableau, cet appendice 1 du RR ne s'adresse pas qu'aux radioamateurs, ça s'intéresse à tous les intervenants, à tous ceux qui traitent de radio. Et là, c'est plutôt professionnel, voire défense. Et enfin, le cas W, c'est combinaison et cas non couverts ci-dessus. Là, du coup, je ne vois pas trop ce que ça peut être. Parce que je pense qu'on a pas mal balayé toutes les possibilités de modulation de porteuse. Et enfin, le N, porteuse non modulée, ça c'est quand vous réglez votre station, vous faites un tune, ça fait un N, porteuse non modulée. vous envoyez une porteuse tout court. Le chiffre, donc ça c'est le signal modulant. Le chiffre, il peut être soit numérique, soit analogique. Alors numérique, ça veut dire que j'envoie des données. Alors, des données soit des 0 et des 1, donc avec, à l'intérieur de ces, de cette catégorie, on a le chiffre 1 où on a une seule voix sans sous-porteuse modulante. Donc j'envoie un signal sur une fréquence. C'est du tout ou rien, typiquement le morse. Le morse, j'aimais ou j'aimais pas. Et c'est le fait de dire j'aimais ou j'aimais pas, ou tout au moins j'aimais très peu de temps ou j'aimais un temps un peu plus long, qui permet de déterminer derrière ce que vous envoyez. Et en l'occurrence, ça sera de la télégraphie si vous êtes en morse. Télégraphie auditive. Donc typiquement, A1A, ça donne télégraphie auditive, modulation d'amplitude, une seule voix contenant une sous-porteuse sans, pardon, une seule voix sans sous-porteuse modulante. Tout ou rien. Le code 2, c'est une seule voix avec sous-porteuse modulante. Donc, j'émets un son ou j'en émets un autre. Typiquement, le telex. J'émets une note pour faire un 0, j'émets une autre note pour faire un 1. Et là, le telex, c'est de la télégraphie automatique. Même si, je sais, il y a des gens qui arrivent à décoder le telex à l'oreille, c'est quand même pas la majorité du monde. 3, analogique. Analogique, ça veut dire que ben voilà, c'est de la parole, c'est de la vidéo. Voilà, ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Donc, concrètement, je peux pas avoir et analogique, par exemple, et télégraphie auditive. Ça, c'est pas possible. La télégraphie auditive, elle ne peut être que 1, 2 ou 7 numériques. Mais elle ne peut pas être analogique. Par définition. Donc le 3 analogique, le 7 numérique, et là, j'utilise pas. Si j'utilise qu'une seule voix, je suis ici dans le cas numéro 2, une seule voix numérique. Quand je suis en code 7, j'ai plusieurs voix. Donc là, j'envoie, je dirais, des informations informatiques en série, et là, quand je suis avec un code 7, en parallèle, parce que j'envoie plusieurs bits en même temps. D'accord ? On verra, alors, quand on verra ça, quand on verra les types, quand on fera plutôt l'informatique et le traitement numérique du signal au chapitre 8, ça, qu'on verra, on reviendra dessus. 8. Alors, je l'ai laissé, je ne l'ai pas mis en italique, mais j'ai bien eu envie de le faire en analogique lorsqu'on a plusieurs voix. Typiquement, la FM en stéréo, il y a plusieurs voix analogiques. Je dirais même que non seulement il y a plusieurs voix analogiques, mais la plupart du temps, il y a des signaux RDS, hein, donc ce sont des signaux numériques, donc on a à la fois de l'analogique et du numérique. Et on peut avoir une ou plusieurs voix à chaque fois. Le code 0, c'est pas de signal modulant. Et le X, c'est autre cas. Et encore une fois, je ne vois pas ce qui est visé ici. Parce que je pense qu'on est à peu près tout balayé. Et enfin, la lettre. Alors là, on va voir tout à l'heure. J'ai quelques méthodes mnémotechniques, mais bon, ça vaut ce que ça vaut. La deuxième lettre, donc A, télégraphie auditive, B, télégraphie automatique, C, facsimilé, le facsimilé par rapport à la télévision, dans le facsimilé, j'envoie des images fixes qui ne bougent pas. Alors que la télévision, c'est de la vidéo, donc les images, elles bougent. D, transmission de données. E, téléphonie. F, télévision. Et W, c'est donc des informations qui sont envoyées en même temps. Typiquement, quand vous faites de la télévision, en règle générale, vous envoyez la vidéo, mais aussi vous envoyez le son. Et donc, vous n'allez pas dire « je suis en télévision » ou « là, je n'ai que la vidéo » sans la partie audio. Vous allez dire « je suis en W » parce que vous envoyez la vidéo et l'audio. Donc, avant 2012, quand on faisait de la télévision, on n'avait pas le droit d'envoyer l'audio en même temps. Ce qui était quand même une grosse connerie. Vaut mieux dire ça comme ça. Et même chose, si on était en téléphonie, on ne pouvait pas transmettre des données en même temps, comme sur certains modes numériques actuellement, où on envoie et de la voix et des données, des data. Voilà. Donc le W, depuis 2012, est autorisé, tant mieux. N, je n'envoie aucune information, je ne vois pas pourquoi je passe en émission. Et X, autre cas, là encore une fois, je ne vois pas ce que je peux transmettre en plus, sachant que de plus en plus, ce que l'on fait, c'est qu'on transmet des données. Alors, différence entre télégraphie automatique et transmission de données, dans la télégraphie automatique, il n'y a pas de test, ou tout au moins très peu de tests pour vérifier que tous les bits sont bien reçus côté récepteur. Alors que quand on est en transmission de données, en règle générale, il y a tout un système soit d'entrelacage de données pour être certain que toutes les données reçues sont bonnes, ou alors il y a des systèmes d'accusés de réception de paquets. Quand c'est des liaisons bilatérales. Bon, on verra ça un peu plus tard, mais voilà, c'est des questions qu'on peut se poser après, et qui sont... voilà, ces questions sont... on y répond partiellement avec un suffixe à mes trois caractères, là. Je peux rajouter un suffixe qui permet de rajouter des informations sur le signal émis ou sur le multiplexage. Donc ce sont des suffixes à deux lettres qui sont définis par le RR mais que nous utilisons jamais. Et enfin, dans le préfixe, c'est là que l'on peut définir la bande passante que l'on utilise. Et donc, on va en parler parce que, alors, cette notion-là de bande passante nécessaire, elle n'est absolument pas utilisée par les radioamateurs, personne n'en parle, mais il y a des questions dessus à l'examen, bien évidemment, ça aurait été trop simple, et ce sont des questions qui sont assez récentes, elles doivent avoir un peu plus d'une année. Auparavant, on n'en avait pas. Et donc les définitions que j'ai mis ici en italique, je n'ai jamais vu de question, et même sur le W, là j'en ai jamais vu non plus. Voilà, j'aurais pu le mettre en... mais au cas où, vaut mieux avoir ça. Tout au moins, si j'ai dû en voir une ou deux, et c'est pour ça que j'avais retiré l'italique. Donc, les types de modulation, voilà un tableau récapitulatif par ordre alphabétique. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, ce qui va nous intéresser, nous, c'est essentiellement le A, c'est pour ça que je l'ai mis en gras, et éventuellement le C, qui est une AM spécifique, le B, on ne l'utilise pas. D, amplitude et angulaire, le E qui n'est pas utilisé. FG pour dire angulaire, fréquence et phase. Ensuite, H, le I qui n'est pas... Alors, le I n'est pas utilisé, c'est pour ne pas le confondre avec un 1. Donc ça, c'est compréhensible. De même que le O n'est pas utilisé, parce qu'on peut le confondre avec un 1, 0. Mais voilà, après, il y a des lettres qui ne sont pas utilisées, E, S, T, U. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, en tout cas, toutes les autres lettres sont utilisées. Voilà. Hein, puisque j'ai aussi le W, le X et le Z, je ne sais même pas. Non, je ne crois pas, le Z n'y est pas. Non, il n'y est pas. Donc le X, le Y et le Z n'y sont pas. Donc voilà, ça vous donne une synthèse. Alors vous voyez que la BLU aussi, donc H, J et R, avec là un grand trou où on va trouver notamment toutes les modulations en train d'impulsion. Donc voilà, ça c'est le premier tableau synthétique. Si vous avez plutôt une vision, une mémoire visuelle, c'est plutôt ça que vous allez utiliser plutôt que l'autre tableau. Et j'ai pas de système à mnémotechnique là, malheureusement. Même chose pour le signal modulant. Donc une seule voix, c'est les trois premières. Donc 1, 2, 3, c'est une seule voix. Donc les deux premiers, c'est numérique, le deuxième, c'est analogique. Et puis après, 7, 8, 9. Ça me rappelait une comptine, ça, hein, 1, 2, 3 et 7, 8, 9. Plusieurs voix, donc, numérique, analogique, puis numérique et analogique. Hein, donc on a la même logique, là. Et quand on est en numérique, il n'y a pas d'histoire de dire si c'est avec ou sans sous-porteuse modulante. Et enfin, la logique de codage et la mnémotechnique de l'information transmise. Alors ça, ça vaut ce que ça vaut. Si ça vous parle, tant mieux. Ce n'est pas toujours évident. Donc A, c'est comme auditif, donc la télégraphie auditive. B comme bécane, donc c'est la télégraphie automatique parce que pour décoder il faut avoir une machine, une bécane. C c'est la copie, donc c'est une image fixe, c'est le facsimilé. Alors juste étymologiquement, un fax, ça permet d'envoyer des images en facsimilé. Et après on a utiliser le mot fax, mais qui en fait, le terme au départ, c'était un facsimilé. Et c'était un système assez compliqué avec une roue qui tournait et qui permettait de voilà, c'était les anciens fax, mais de manière avec des comment dire des stylets et des un petit peu des têtes d'impression, quoi, qui étaient utilisées, grosso modo, c'était un équivalent de Telex, qui permettait d'envoyer des images fixes. Et ça s'appelait donc un facsimilé, qui est devenu après un fax tout court, dans les années 1980, quand c'est arrivé en France. Données, D comme données, donc transmission de données, ça c'est facile. E comme écoute, donc c'est de la téléphonie. Et pour la télévision, c'est le F comme France Télévision. Voilà. Après, les autres codes pour lesquels je n'ai pas remonté d'informations particulières, N c'est no info, donc aucune information. Et alors là, c'est très tiré par les cheveux, c'est quelqu'un qui me l'a donné. Donc, combinaison de cas, c'est wetsuit, puisque wetsuit, c'est la combinaison de plongée. Donc, il faut avoir l'esprit très tordu, mais pourquoi pas. Voilà pour les classes d'émission. Donc, ça, c'est la définition. Maintenant, on va... la définition, elle ne se dit pas dans l'ordre des termes qui sont ici. C'est-à-dire que quand on définit une classe d'émission, on ne commence pas par le type de modulation. On va commencer par le type d'information transmise. Puis, on va donner le type de modulation. Et enfin, le signal modulant quand c'est nécessaire. Exemple de la téléphonie, on sait que c'est de l'analogique, et donc on précisera pas analogique, sauf si c'est de la stéréo, et dans ce cas-là on dira analogique plusieurs voix ou analogique stéréo. Donc, important, on commence par le troisième caractère, puis on donne la modulation, premier caractère, et enfin le signal modulant, ici. Et là, c'est important parce que, en l'occurrence, le 2, ça permet de définir si j'ai ou pas une porteuse. Si la porteuse est modulée ou pas. Là, en l'occurrence, elle va être modulée. Il y a une sous-porteuse modulante. Donc là, typiquement, dans ce cas-là, donc ce n'est pas de la modulation d'amplitude sous-porteuse modulante télégraphie automatique. La définition officielle, ça va être télégraphie automatique, modulation d'amplitude double bande latérale avec emploi de sous-porteuse modulante. D'accord ? Donc ça, c'est par exemple A2B, mais... je peux avoir d'autres classes d'émissions. Là, je vous ai donné les principales, celles sur lesquelles il y a souvent des questions. On peut multiplier un petit peu les différentes combinaisons pour trouver toujours des nouveautés. Au bout d'un moment, c'est quand même assez limité. Je vous rappelle quand même, dans l'ancienne réglementation, il y en avait 36. Avec quand même un nombre de types de modulation limité, mais on arrivait quand même à en définir 36. Donc on doit pouvoir en définir, je dirais, une soixantaine avec toutes les combinaisons qu'on peut avoir. Après, lesquels vont être utilisés par des radioamateurs, ça c'est encore un autre débat. Donc le premier, la plus simple et la plus classique, c'est A1A, et donc c'est télégraphie auditive, modulation d'amplitude par tout ou rien, sans emploi de sous-porteuse modulante, c'est du morse. Hein, j'aimais ou j'aimais pas. Un temps court, c'est un point, j'émets un temps un peu plus long, c'est un trait. Télégraphie, alors A1B, donc ça c'est le deuxième, télégraphie automatique, modulation d'amplitude partout ou rien, sans emploi de sous-porteuse modulante. Là je ne sais pas trop ce que c'est, ça peut être du L-Schreiber par exemple. C'est de la télégraphie automatique, parce que vous ne pouvez pas le décoder à l'oreille. Et vous employez du tout ou rien, c'est-à-dire que vous envoyez ou pas une porteuse. Donc vous, si vous ne savez pas ce que c'est du L-Schreiber, vous cherchez sur Internet, vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. F2A, télégraphie auditive, modulation de fréquence, une seule voix avec sous-porteuse modulante. Donc là, c'est typiquement du morse, que je ferai avec un buzzer devant le micro de mon pocket, qui serait en FM. Ça marche aussi, hein. Ça devient compliqué, mais ça marche. F3E, téléphonie, modulation de fréquence, tout bêtement. Et donc, je n'ai pas à préciser la porteuse modulante, puisque, par définition, c'est de l'analogique, puisque c'est en téléphonie, et donc, je n'ai pas à préciser que c'est de l'analogique. J3E, téléphonie, modulation d'amplitude BLU, porteuse supprimée. Donc ça, c'est de la BLU, bête et méchante. F7W, combinaison de différents types d'informations, modulation de fréquence, plusieurs voies numériques. Donc là, c'est notamment toutes les communications par, comment dire, tous les modes numériques du style Destar, P25, etc., etc. Et encore, je ne suis même pas sûr que ce soit de la FM, c'est souvent de la modulation de phase. Donc ça doit être du coup G7W. Alors, je le dis et le répète, ne pas confondre la classe d'émission avec le protocole. Par exemple, la SSTV est un protocole, mais le code d'émission, si on veut faire de la SSTV, ça serait quoi? Donc la SSTV, c'est si vous recevez des images en FM, par exemple, ça serait F3C. Parce que vous recevez des images, donc C, image fixe, SSTV, malgré son nom, c'est de la SSTV, c'est des images fixes. Et si vous les recevez sur un petit pocket qui peut être soit en FM, soit en modulation de phase, donc ça peut être G3C ou F3C. Du PSK31, c'est un mode numérique. Du PSK, donc je fais varier la phase, phase shift keying. Donc je module en faisant changer ma phase. Donc c'est un G. Je change ma phase, donc en fait c'est ma sous-porteuse dont je change la fréquence, donc ça serait un G2, et c'est de la, alors c'est pas de la transmission de données, parce que je n'ai aucun système à la réception pour vérifier si j'ai bien réussi tous les caractères, donc je vais plutôt utiliser la lettre B. Vous voyez, donc c'est pas aussi évident que ça. Et ceux qui me disent qu'ils se mettent en BLU quand ils font ça, et que donc c'est de la BLU, c'est faux. Ils se mettent en BLU parce que ils utilisent non pas du PSK, mais ce qu'on appelle de l'AFSK, donc de l'Audio Frequency Shift Keying. C'est-à-dire que c'est le PC qui génère une fréquence que l'on injecte dans la BLU et c'est ça qui fait varier la fréquence. Donc c'est un peu tordu comme truc, mais quand on reprend le... Donc c'est pas quelque chose qui commence par un J, déjà. Bien que vous mettiez en route le bouton BLU, vous êtes bien en modulation de phase, puisque c'est le principe même du PSK31. Donc c'est un petit peu compliqué, et souvent on connaît le protocole qu'on va utiliser, mais on ne sait pas trop quelle classe d'émission on va utiliser. Et pour rappel quand même, cette classe d'émission, c'est ce qui va vous permettre de remplir votre journal de bord, votre carnet de trafic, puisque vous êtes obligé de noter la classe d'émission. Classe d'émission, mais pas le protocole. Donc, les stations peuvent utiliser toutes les classes d'émission, je le répète, alors qu'avant le changement, donc c'est mars 2013, on pouvait demander à une autorisation auprès de la NFR de faire des émissions expérimentales dans les classes d'émission qui n'étaient pas utilisées. Maintenant, ces émissions expérimentales, ça n'a plus lieu d'être, puisque elles étaient comment dire, délivrées, ces autorisations, pour certaines classes d'émissions qui n'étaient pas prévues dans les 36 classes d'émissions qui étaient autorisées. Il n'y a qu'une seule exception à cette ancienne réglementation, c'est pour les ex-classe 3, enfin les F0 actuels, qui n'ont toujours droit qu'à 6 classes d'émissions. Eux, ils ont droit qu'à 6 classes d'émissions qui sont A1A, donc le MORS, A2A. Alors A2A, c'est quoi? C'est j'émets une note. Alors A1A, c'est j'émets ou j'émets pas. A2A, c'est j'émets une note ou je n'émets pas. Hein, donc c'est comme si j'avais un buzzer, et donc quand j'appuie sur le manipulateur, ça envoie la porteuse, et en plus, ça envoie une note, pour que, en réception, sans matériel trop compliqué, on puisse décoder. L'intérêt est très limité quand même. A3E, c'est de la M, F3E, modulation de fréquence, G3E, modulation de phase, et J3E, BLU, et à chaque fois évidemment avec le E, c'est de la téléphonie. Donc ce sont ces 6 classes d'émissions. Il y a des questions à l'examen là-dessus, malgré que les ex-classe 3 ont pu passer l'examen, mais voilà, on a encore des questions sur cette réglementation propre aux ex-classe 3. Ah, raté. Raté. Petit commentaire sur le type de modulation. Les modulations de fréquence et de phase sont si proches que souvent on ne les différencie pas à l'oreille. Et encore une fois, lorsqu'on utilise un ordinateur, il va bien faire la différence, je vous rassure. Et en cas de doute sur la modulation utilisée, savoir si on est en FM ou en modulation de phase, le code F sera retenu, et c'est pour ça que la plupart du temps, on dit qu'on est en modulation de fréquence, donc avec un F, alors que le matériel que l'on utilise est en modulation de phase. Mais voilà, il n'y a que vraiment les... Maintenant, je suis certain que vous allez tous regarder la notice de votre appareil, et vous allez vous apercevoir que vous êtes non pas en modulation de fréquence, comme vous dites souvent, mais en modulation de phase. Nature du signal modulant. Lorsque la nature du signal modulant est codée 1 ou 2, donc c'est j'émets ou j'émets pas, finalement, le tout ou rien, alors la définition exacte qu'il y a dans l'annexe 1 du RR, c'est quoi? C'est une seule voix contenant de l'information numérique ou quantifiée avec ou sans emploi de sous-porteuse modulante. Donc là, important, de l'information numérique, donc c'est, si c'est numérique, c'est des 0 et des 1, ou quantifiée. Quantifiée, c'est quoi? C'est typiquement le morse. Le morse, c'est une information quantifiée. Soit j'émets un point, soit j'émets un trait. Et donc, selon que j'émets un point ou un trait, j'ai une quantification différente. Et c'est ça qui me permet de différencier mes différents morceaux de caractère. Hein, un court, un long, c'est un A. Un long, un court, c'est un N, etc., etc. Et donc, en morse, en CW, l'information est quantifiée car la durée des traits est 3 fois plus longue que la durée des points. Donc ça, c'est pour ça que le morse, on le code 1 ou 2, selon que on envoie ou pas une porteuse, au moins un signal en même temps que la porteuse, donc ce qu'on appelle une sous-porteuse modulante. Dans les modes digitaux, l'information est numérique, donc ça peut être un code B, D, W, et la sous-porteuse modulante, qui donc porte le code 2, permet de distinguer par une fréquence différente les 0 et les 1. Alors, c'est fréquence ou phase. Parce qu'on peut avoir des systèmes qui permettent de mesurer la phase. Et typiquement, en FT8, c'est exactement ce que l'on fait, c'est-à-dire que l'on mesure la phase, et selon que l'on est en phase ou pas, on a un 0 ou un 1. Et c'est pour ça que ça prend très très peu de place, le FT8, et que c'est un mode très robuste. Et donc, quand on est en code 2, on transmet les codes, les 0 et les 1, les uns à la suite des autres. On est en série. L'emploi du code 7 signifie que les données sont transmises en parallèle sur deux voies ou plus. Ça, ce sont des modes un peu plus compliqués. Typiquement, par exemple, le mode utilisé pour la TNT, c'est un code de mémoire à 8 bits. Il y a 8 bits qui sont envoyés en même temps. Type d'information transmis. Donc une distinction est faite entre les images fixes, le facsimilé, et la vidéo, donc le code C et le code F. Et donc là, SSTV, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, doit être codé C et non pas F. Le code B est utilisé pour la télégraphie automatique du texte avec ou sans système de correction. Donc il y a des fois des systèmes de correction, mais qui sont pas très, qui sont assez rustiques. Donc, voilà. Il y a un système de correction, mais qui laisse quand même quelquefois des erreurs. Alors que le code D est utilisé pour la transmission de données avec système de correction d'erreurs. Donc on a soit des ARQ, soit des FEC. Alors là, ça se complique. On est dans le monde de l'informatique, on n'est plus vraiment dans le monde de la radio. J'ai mis ça en italique, donc normalement il n'y a aucune question dessus, mais c'est pour vous commencer à vous ouvrir un petit peu les esprits. Et lorsque plusieurs types d'informations sont transmises simultanément, par exemple son et vidéo pour la télévision, on va utiliser le code W. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Des questions sont apparues récemment, enfin il y a un an, sur le préfixe de largeur de bande nécessaire. Donc, c'est décrit dans l'annexe, dans l'appendice 1 du RR. Encore une fois, ce n'est pas utilisé par les radioamateurs, ou tout au moins c'est utilisé dans les notices techniques des appareils, et comme personne ne les lit, voilà. Et donc, c'est ce qui permet de définir quelle est la largeur de bande nécessaire ou utilisée pour la transmission. Donc, on a systématiquement le code est composé de 4 caractères, il y a 3 chiffres et une lettre, systématiquement. Et la lettre, elle va remplacer la virgule dans le nombre à coder. Donc, les lettres, on a 4 lettres, G pour gigahertz, M pour mégahertz, K pour kilohertz et H pour hertz. Le code commence systématiquement par un 1 ou un 9, ne peut pas commencer par un 0. Sauf si la largeur de bande est inférieure à 1 Hz. Alors ça, je vous rassure, les petits copains, 1 Hz de largeur de bande, pour nous radioamateurs, ça ne veut rien dire. Parce que on ne peut passer aucune information. Donc, vous n'y pensez même pas. Parce que, évidemment, dans ce cas-là, c'est codé ici, par exemple, H080. Donc on aurait 0,08 Hz de bande passante. Donc je ne sais même pas ce que l'on peut envoyer et à quelle vitesse on peut envoyer une information comme ça. c'est tout simplement pas utilisable et pas utilisé par les radioamateurs. Donc là, les exemples, donc celui-là, il n'est pas très utilisé. Le 0,15 Hz, pas utilisé non plus. 90 Hz, peut-être en morse, mais pas trop vite. 90 Hz, ça se coderait 90H0, 90 Hz. 400 Hz, ça c'est de la, c'est du morse bête et méchant. Hein. Donc 400 H. De la BLU. N'oublions pas que la BLU, le spectre que l'on envoie, c'est grosso modo de 300 Hz à 3000 Hz. Donc en termes de bande passante, on a bien nos 2,7 kHz. Et donc ça va se coder 2K70. Hein, le K ici, je le mets à la place de la virgule. 6 mégas, là je suis dans le cadre plutôt d'une émission de télévision, hein, ça commence à devenir gros. 6M20. Après, la problématique, c'est pour des largeurs de bande qui sont super précises. Et en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va arrondir. Donc le 15,81 GHz devient 15G8. Et le 1585, j'arrondis, puisque c'est le 5 qui fait que j'arrondis à la valeur supérieure, ça va me donner 15G9. Et typiquement, un code de BLU avec une bande passante de 2,4 kHz, par exemple de 300 à 2700 kHz, donc je ne mets pas l'intégralité du spectre que généralement je mets, donc je coupe un tout petit peu sur la partie haute du spectre en supposant que c'est un homme qui parle. Si c'est une femme, ça commence à se compliquer parce qu'on va tronquer une partie de sa voix et donc on ne va plus trop comprendre ce qu'elle dit. Enfin voilà, imaginons que c'est un homme avec une voix bien grave, eh bien on va aller de 300 Hz à 2700 kHz. On va comprendre quand même ce qu'il dit. Du coup, on a une bande passante de 2,4 kHz, hein, 2,7 moins 0,3, qui me fait 2,4 kHz de bande passante, et mon code, ça sera 2K40, et derrière J3E, puisque je suis bien en BLU. Et si je suis en téléphonie FM avec une excursion de plus ou moins 5 kHz, puisqu'on va voir tout à l'heure ces excursions, ce que ça veut dire, eh bien, l'excursion de plus ou moins 5 kHz, bah, ça donne une bande passante de 10 kHz. Hein, si ça va de plus 5 à moins 5, c'est qu'il y a 10 kHz entre les deux. Donc, ça me fait 10K0 et téléphonie FM F3E. Voilà comment serait codé de la BLU à 2,4 kHz et de la FM à 10 kHz. Alors les questions ne portent pas sur cette codification-là, mais sur ce préfixe. Et il y en a régulièrement qui reviennent dans les comptes rendus. Donc il doit y en avoir un certain nombre, puisque à chaque fois je tombe sur des valeurs différentes. Donc la NFR a dû en mettre un certain nombre dans la base de données. Rapidement, alors ce n'est pas au programme de l'examen, mais j'ai préféré vous montrer ces représentations schématiques. Alors ça permet de mieux comprendre comment ça fonctionne, mais voilà, pour avoir plus de détails, il faudra attendre la fin du cours, donc le chapitre 12, ou alors si vous voulez vraiment savoir, et ben vous passez la vidéo du chapitre 12 et vous allez tout savoir. Problème, vous n'allez peut-être pas tout comprendre, parce que si vous n'avez pas vu tout ce qu'il y a à voir auparavant, ça sera peut-être un peu compliqué à comprendre. Donc, a priori, enfin normalement, les représentations schématiques, les oscillogrammes tels qu'ils sont là, ne sont pas au programme de l'examen. Problème, j'en ai déjà vu. Pas récemment, donc peut-être ça a été retiré, mais j'en ai déjà vu. Donc, ce que je vous ai présenté, là, il y a deux choses. Il y a premièrement, il y a la... Comment dire ? Déjà, ce sont des représentations des oscillogrammes. Ce qui veut dire que c'est la représentation du signal dans le temps. Il y a une deuxième possibilité, c'est de représenter ça en fréquence. Et voilà, ce qui nécessite quand même un petit peu plus de, comment dire, de connaissances. Et donc c'est pour ça que je ne préfère pas vous mélanger et vous mettre le doute en vous faisant des représentations qui sont en fonction de la fréquence et qu'on va appeler des spectrogrammes, puisqu'on représente le spectre. Donc là, c'est plus ce que représenterait un oscilloscope. Un oscilloscope qui représente des oscillogrammes. Donc ici, j'ai mon oscillation qui varie avec l'amplitude, d'où le terme modulation d'amplitude. Hein. Donc ça marche bien. Désolé. Donc voilà, je bouge là mon amplitude. Et vous remarquez que je bouge mon amplitude de même manière en haut et en bas. Donc ce que l'on appelle ici l'enveloppe, c'est ce qui va déterminer ici les pointes ici de modulation. D'accord ? Donc mon enveloppe, elle va avoir ici des maximums ici et ici en dessous. Et c'est donc cette puissance-là qui, on va voir tout à l'heure, qui détermine la puissance de pointe de l'enveloppe. D'accord ? Vous remarquez ici que les distances entre chacune ici des sinusoïdes, là, est toujours le même. C'est-à-dire que ici, ma fréquence ne bouge pas. Donc ça, c'est de la M. Quand je suis en BLU, ça se complique un petit peu. Alors la BLU, ça ne peut s'expliquer qu'avec un spectrogramme. Mais c'est compliqué. Donc pour le moment, on n'en parle pas. Mais la BLU, ça ressemble quand même beaucoup, beaucoup à la modulation d'amplitude. Pourquoi ? Parce que c'est un dérivé. C'est un dérivé un peu tordu, mais c'est un dérivé. Et il y a des moments où en BLU, il n'y a aucune émission. Alors qu'il y a toujours une émission quand vous êtes en AM. Ensuite, il y a le Morse. Là, c'est facile, hein. J'émets ou j'émets pas. Donc ici, là, dans cette partie-là, j'appuie sur le manipulateur, puis après, je n'appuie plus. Puis je réappuie, puis je n'appuie plus. Voilà. Donc ça, ça fait, par exemple, la lettre U. Point, point, trait, U. Et quand je suis en FM, ou en modulation de phase, fréquence ou phase, visuellement ça va donner la même chose, j'ai toujours la même amplitude. En revanche, ce qui bouge là, c'est la fréquence, puisque l'écart entre mes différentes sinusoïdes là, fait que de bouger. Alors évidemment, dans ce schéma-là, c'est largement exagéré, parce que là, la bande passante, elle doit être énorme. Et évidemment, c'est tout simplement pas possible de faire quelque chose comme ça, parce que sinon, vous allez utiliser des mégahertz, voire des gigahertz, hein, selon sur la fréquence sur laquelle vous allez être. Donc là, c'est le trait est largement forcé, mais l'idée, c'est ça. Et vous remarquez qu'à chaque fois, la zone est grisée. Là. La zone grisée, c'est finalement... la partie, le niveau de puissance émis. Et dans les questions d'examen, ce qui n'est pas montré, ce sont les oscillations, mais c'est uniquement la zone grisée qui est représentée. Donc quand vous êtes en AM, vous allez avoir quelque chose comme ça de grisé. BLU, bah, vous n'allez pas trop faire la différence entre les deux, si ce n'est qu'en BLU, vous avez des parties ici, notamment, où il n'y a aucune émission. Le morse, on le reconnaît. Et la FM, eh ben, c'est comme si vous étiez en morse, mais que vous appuyiez tout le temps sur le manipulateur. Ou comme si vous étiez en train, si vous étiez endormi sur votre manipulateur en morse. Puisque, encore une fois, ce qui est représenté, ce n'est pas les sinusoïdes, là, c'est juste le niveau de puissance émis. On va voir concrètement tout à l'heure ce que c'est dans les questions d'examen. On en arrive à aux conditions techniques, d'autres conditions techniques dont on n'a pas parlé, hein, puisque là on était encore dans les classes d'émission, maintenant on va passer aux conditions techniques qui sont définies, elles, par les décisions de l'ARCEP. Alors, il y a des vieilles décisions de l'ARCEP, notamment avant 2012, et une nouvelle décision ARCEP qui a été, la 12-1241, qui a été publiée en mars 2013. Donc voilà, il y a toujours un petit décalage entre le moment où la décision est prise et le moment où elle est publiée au journal officiel. Elle a été publiée en mars 2013. Et voilà. Il y a des nouvelles dispositions qui ont fait annuler et remplace. Les anciennes dispositions, c'était quoi? C'était les stations doivent être équipées des matériels suivants. Un indicateur de puissance, un indicateur de rapport d'onde stationnaire, une charge non rayonnante, un filtre d'alimentation. Ça, c'était les quatre matériel que l'on devait trouver sur une station de radioamateur. Maintenant, depuis 2012, il n'y a plus qu'un seul élément obligatoire, c'est l'indicateur de puissance. Vous remarquez qu'on n'appelle pas ça un wattmètre. On appelle ça un indicateur de puissance pour montrer que on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de très précis. C'est juste pour montrer qu'on est en émission ou pas. Et généralement, d'ailleurs, cet indicateur de puissance, il est intégré au TX, et le fait d'avoir, par exemple, un petit bar graphe qui montre qu'on est passé en émission, eh bien, ça suffit pour être en règle vis-à-vis de la décision 12-1241. C'est juste un indicateur de puissance et en aucun cas un wattmètre, parce qu'après, un wattmètre, il faut juste définir quelle est la qualité de l'appareil de mesure. Et là, on ne demande même pas d'avoir quelque chose avec une certaine qualité, on a juste besoin de savoir si vous êtes en émission ou pas. Les autres, les trois autres ici matériels, ne sont plus obligatoires. Alors, jusqu'à présent, j'en ai pas vu. Dans les questions, elles ont toutes été retirées. Enfin, tout au moins, toutes ces questions qui tournaient autour de ces matériels ont été retirées, sauf le filtre d'alimentation. Alors, le filtre d'alimentation, on verra ça un peu plus tard, mais finalement, il est obligatoire dans le sens où on doit être conforme à ce qu'on appelle des exigences essentielles, c'est-à-dire faire en sorte de ne pas brouiller les autres. Et donc, de ce fait, le filtre d'alimentation, ça évite de brouiller les autres, et notamment que la haute fréquence, la HF, remonte dans l'alimentation et passe dans l'alimentation secteur, et donc vienne brouiller. Alors chez vous encore, c'est pas trop grave, mais chez les voisins, c'est un peu plus grave. Si vous vous brouillez vous-même, bah vous en prenez qu'à vous. Et si vous embêtez les voisins, là, c'est un peu plus gênant. Et d'autre part, il y avait conditions techniques qui ont été abrogées en 2012, mais on continue d'avoir des questions dans la base de données à NFR. Je dis, je le répète depuis bientôt 10 ans, mais visiblement la NFR est sourde, ou tout au moins ne lit pas les comptes rendus que je fais sur la liste de diffusion des questions d'examen. Et donc, notamment, alors, Excursion FM, je n'en ai pas vu récemment. Mais auparavant, l'Excursion FM était limitée. Soit plus ou moins 3 kHz, soit plus ou moins 7,5 kHz, selon qu'on était en dessous ou au-dessus de 30 mégas. La fréquence émise était repérée. Ça, j'en ai toujours qui sont posés de cette manière-là. Enfin, voilà, avec quel niveau de détail la fréquence doit être repérée. Concrètement, c'est quoi? C'est quand vous avez un émetteur, vous devez avoir un système qui vous permet d'afficher la fréquence. Alors, dans les vieux appareils, maintenant c'est des boutons, tout est inscrit avec l'écran rétroéclairé ou autre. Mais auparavant, c'était un bouton qu'on tournait et derrière il y avait le condensateur variable. Et donc, quand on était en décamétrique, ce bouton qui indiquait la fréquence, qui tournait donc, il fallait qu'il soit gradué au moins tous les kHz en décamétrique, et quand on était sur des fréquences au-delà de 30 mégas, c'était au moins tous les 10 puissance moins 4. Donc par exemple sur 144, c'était au moins tous les 14 kHz, du coup, 10 puissance moins 4. Concrètement, si on le faisait à 10 kHz, on était bon. Alors, est-ce qu'en AM, il y a aussi une largeur de bande occupée? Ah ben, bien sûr qu'il y a une largeur de bande occupée. On verra ça quand on fera ça au chapitre 12. La bande occupée en AM, c'est deux fois la fréquence maximum que l'on va transmettre. Exemple, vous êtes en AM, vous envoyez de la musique qui va par exemple jusqu'à 10 kHz, eh bien votre spectre AM va prendre comme place 2 fois 10 kHz, donc 20 kHz. Et si vous voulez passer un peu plus de bande passante, parce que voilà, vous aimez bien la musique et que vous aimez bien les aigus, par exemple les solos de cymbales, eh bien il va falloir que vous passiez du 15 kHz, et donc dans ce cas-là, eh bien votre AM va prendre en place 30 kHz, 2 fois 15. Donc tout dépend, et je ne vous parle pas de la télévision. Hein, la télévision où on a grosso modo une bande passante de 1 méga, voire 2 méga, selon ce que l'on met comme définition, eh bien, ça va prendre le double. Donc, voilà. Alors, de la télévision, évidemment, en analogique, pas de la télévision numérique. Parce que ça tient un peu moins de place, la télévision numérique. Mais la télévision numérique n'est pas en AM. Elle est plutôt en modulation de phase. Voilà. Donc pour revenir à nos conditions techniques avant 2012, donc cette fréquence repérée, elle était importante voilà, dans les années 80 ou 70 quand il n'y avait pas tous les matériels avec les affichages qu'on a actuellement. Maintenant, ça ne sert plus vraiment à grand chose, mais il y a toujours des questions posées. Et enfin, il y a aussi des questions sur la stabilité des oscillateurs. Ça, c'est quelque chose qui est toujours un petit peu d'actualité. Même si ce que préconisait la réglementation, c'était 5 10 puissance moins 5. Donc c'est une grosse dérive maintenant avec les appareils modernes où on arrive à descendre bien en dessous de cette dérive. Voilà. Et donc la stabilité des oscillateurs, bah, c'est voir si puisque une fois que vous avez votre fréquence qui est repérée, encore faut-il que votre repérage soit le bon et que votre oscillateur ne joue pas les savonnettes à partir dans tous les sens. Parce que sinon, votre repère de fréquence ne veut strictement rien dire. Voilà. Donc, toutes ces joyeusetés là, et je ne parle pas des anciennes réglementations où on avait notamment le calibrateur à quartz et autres trucs du même acabit, mais qui ont été supprimés, je crois, dans les années 85, pareil. Voilà. Mais moi, quand j'ai commencé la radio, il fallait avoir un calibrateur à quartz. Indépendant. Et ça faisait partie de ce que demandait l'examinateur quand il vous donnait le OK pour votre station. Voilà, donc petit aparté là-dessus. Donc si vous avez des questions sur ces conditions techniques un peu vieillottes, j'ai pas de conseils à donner, mais puisque maintenant les mauvaises réponses ne sont plus trop pénalisantes. Mais voilà, répondez un petit peu au hasard, mais soyez pas déstabilisés. Et depuis 2012, donc, à part l'indicateur de puissance qui est obligatoire dans les stations d'amateurs, la deuxième chose qui est définie dans la décision 12-1241, c'est la largeur de bande occupée, maximum. Et donc le texte dit la largeur de bande occupée par le signal émis doit rester dans la bande attribuée. Ça c'est peut-être bête, mais c'est mieux. C'est-à-dire que évidemment vous faites en sorte que puisque vous connaissez la bande passante utilisée, bah, vous essayez que l'intégralité de votre message soit dans la bande radio amateur et qu'il n'y ait pas une partie qui déborde. C'est très bête ça, mais il y en a beaucoup qui l'oublient, notamment sur 7 mégas ou sur comment dire, le 60 mètres où la bande est très réduite. Et donc ils se retrouvent en BLU en fin de bande, et en fait ils vont se retrouver hors bande. Donc cette largeur de bande, elle est définie selon la fréquence, et donc. Ça ne peut pas être supérieur à 6 kHz pour toutes les fréquences inférieures à 28 mégas. Sur la bande des 10 mètres et sur jusqu'au 140, enfin jusqu'à 144 MHz, donc jusqu'aux 50 mégas, hein, puisqu'on s'arrête à 144. Donc on a la bande des 28 mégas et la bande des 50 mégas. Là, on a droit à 12 kHz. 20 kHz. De 144 à 225. Alors vous me direz pourquoi 225? C'est que le 225 mégas, c'est une bande qui est autorisée uniquement en région 2 et c'est le fin de la bande. Donc en fait, voilà, on a droit à 20 kHz entre 144 et 225 mégas et au-delà de 225 mégas, il n'y a plus de limite. Mais encore une fois, il faut rester à l'intérieur de la bande attribuée. Et ce que précise le texte, c'est que l'optimisation de la bande passante occupée par une émission doit être recherchée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez nos limites au-delà de 225 mégas que vous êtes obligé d'utiliser toute la bande. Voilà, on essaye d'optimiser pour penser aux copains. Et ça, il y a quelques questions là-dessus, hein. Peu. Mais j'en ai vu. Alors, grande question, on a parlé du matériel obligatoire. Il y a une question récurrente de la part de l'ANFR qui concerne le générateur de ton. Qu'est-ce que c'est que ce générateur de ton? C'est ce qui va permettre de mesurer la puissance quand on a des émetteurs AM ou BLU. Je m'explique. quand vous avez ici ce genre de modulation. Évidemment, la puissance, elle va varier tout le long ici de la si vous envoyez ou pas du son, un signal. Typiquement, quand vous êtes en BLU, comment faire pour définir la puissance avec laquelle vous émettez. Et donc, quand vous êtes en AM, c'est exactement pareil, puisque cette puissance, elle ne fait que varier. Et donc, pour mesurer la puissance, et accessoirement, pour être certain que les amplificateurs soient bien réglés et qu'ils donc ne baffent pas, on va utiliser ce qu'on appelle un générateur de tons. Alors, un générateur un ton, ça suffit pour mesurer la puissance, mais un générateur de tons, ça va vous permettre de vérifier que votre amplificateur est bien linéaire. On verra ça. Peut-être pas tout à la fin, mais vraiment dans les derniers temps, une fois qu'on aura compris ce qu'est une harmonique, ce que c'est une distorsion, etc., etc. C'est pas tout de suite que vous allez pouvoir comprendre ça. Donc ce générateur de ton, l'ANFR dit c'est obligatoire. Moi je dis non, c'est pas obligatoire, c'est seulement recommandé. D'ailleurs, le nombre de stations qui ont un générateur de ton, je voudrais bien le connaître. Et à mon avis, il n'y en a pas tant que ça. D'autant plus qu'il n'y a aucun texte français ou européen qui mentionne cet appareil. Il y a juste une recommandation de l'UIT qui a été mise à jour en novembre 1998 qui décrit la méthode de mesure de la puissance crête dans le cas d'une émission modulée en amplitude sans jamais faire référence au générateur de ton. Il explique la manière. Effectivement, ça correspond bien au générateur de ton. Le générateur de ton, c'est quoi? C'est un générateur de son qui génère deux sons qui ne sont pas harmoniques entre eux. Voilà, par exemple, du 700 Hz et du 1300 Hz. C'est pas harmonique entre eux. Et donc, en sortie d'émetteur, il faut vérifier qu'on a toujours ce 700 Hz et ce 1300 Hz sans avoir d'autres mélanges, comme par exemple 700 et 1300, 2000 Hz, ou 1300 moins 700, 600 Hz. Si on retrouve du 600 Hz et du 2000 Hz, ça veut dire que un des amplificateurs n'est pas linéaire. Et que donc, ça peut poser problème. Et de plus, le générateur de ton, ça permet de mesurer la puissance crête, enfin la puissance des émetteurs AM ou BLU. Donc, voilà. Alors, en janvier 2018, ça fait quand même 3 ans, même 4 bientôt, un compte rendu montre que l'ANFR pourrait avoir changé son point de vue, puisque à la question un radioamateur opère en J7W, donc en BLU, doit-il obligatoirement posséder un générateur de ton? Et la réponse semblait être non dans tous les cas, puisque le candidat n'a fait aucune faute et il a répondu de cette manière. Donc on peut supposer que c'est bon, mais voilà, on ne sait pas. Et puis régulièrement on a d'autres questions qui montrent que la bonne réponse semble être oui, il faut un générateur de ton. Donc si vous avez une question comme ça, maintenant ça pose moins de problèmes, puisque encore une fois le point négatif n'existe plus, mais voilà. Et j'attends désespérément une position claire de l'ANFR qui n'arrive pas. Alors, les conditions techniques, j'en ai une autre qui est super, super compliquée. Il n'y a pas trop de questions dessus, heureusement, mais il y en a quand même. C'est sur le niveau de puissance maximum toléré pour les rayonnements non essentiels. Alors tout ça, c'est un texte très technique, très compliqué. C'est défini dans l'appendice 3 du RR, donc l'appendice ou l'annexe, comme vous voulez. Donc c'est encore un développement de tous les textes qui sont dans le premier tome, donc des articles du RR. Et donc là, on définit le niveau de puissance pour les rayonnements non essentiels. On va voir ce que ça veut dire tout à l'heure. Pour rayonnements non essentiels, j'ai appelé ça les RNE, rayonnements non essentiels. La formule, puisque malheureusement, il y a une formule, ces rayonnements non essentiels doivent être inférieurs à 43 décibels plus 10 logs de P. Alors, quand on vous a dit ça, ok, on n'a pas encore vu les décibels, on n'a pas encore vu ce que sont des rayonnements non essentiels, donc quand on regarde le texte comme ça, on ne sait pas trop comment prendre les choses. On verra les décibels à la fin de... Il y a quelques questions sur les décibels en réglementation, donc on verra ça à ce moment-là. Et surtout, on le verra dans la partie technique, évidemment. Donc, le 10 log de P, là, le P, là, ça, c'est la puissance de l'émetteur. Et quand on va utiliser 10 log de P, ça correspond à la puissance de l'émetteur qui est exprimée en décibels watts. Encore une fois, on va voir ça quand on fera le chapitre 5. Ne paniquez pas si vous ne comprenez pas. On verra ça, ça s'explique en bon français. Ça s'explique. C'est un peu compliqué, mais ça s'explique. Cas particulier pour les fréquences inférieures à 30 mégas et pour les radioamateurs, uniquement. Et quelle que soit la puissance d'émission, évidemment. Le RR limite le niveau des rayonnements non essentiels à moins 50 dB. Alors quand on parle de dBc, c'est dB par rapport à la fréquence fondamentale. dBc, ça veut dire décibels par rapport à la porteuse, carrier, la porteuse. Donc ce terme-là, moins 50 dBc, c'est je regarde la puissance, enfin le niveau de puissance par rapport ici à ma porteuse, par rapport à mon émission fondamentale. Donc c'est pour toutes les fréquences inférieures à 50 mégas, les émissions, les rayonnements non essentiels doivent être inférieurs à 50 dB. Et uniquement pour les fréquences inférieures à 50 mégas. Quand on est sur les fréquences supérieures, le RR, lui, il limite les rayonnements non essentiels à moins 70 décibels par rapport à la fréquence fondamentale pour tous les types de stations. Alors vous me direz, ouais, 50, 70, il n'y a pas une grande différence. Quand on parle en termes de puissance, il y a quand même un rapport de 100 entre les deux. Donc ça commence un petit peu à bouger. Et ce 70 décibels par rapport à la porteuse, ne peut pas arriver, puisque ici, on a une puissance, alors ça on le verra un peu plus tard, la puissance maximum au-delà de 30 mégas, c'est 120 watts. Donc 120 watts, ça correspond ici, quand on traduit ça en décibels watts, ça correspond à 21 décibels watts à peu près. Donc si je fais l'addition, 43 plus 21, ça me donne 64, je ne peux jamais arriver à mes 70 qui sont mentionnés ici. Voilà. Et enfin... Ah bah parce que le 21, c'est 10 logs de 120. 10 logs de 120, ça fait 21. Bon, c'est pas évident, hein. Faut le faire à la calculette. Mais encore une fois, on n'est pas là pour faire des logs, hein. On est là pour faire de la réglementation. Donc pour le moment, vous prenez ça, voilà, comme cela, sans chercher trop à comprendre. Ce qu'il faut bien vous mettre dans la tête, c'est que pour les fréquences inférieures à 30 mégas, c'est 50 dBc maximum. Pour les fréquences supérieures à 30 mégas, ça ne peut pas aller au-delà de 64 dBc, puisque nos puissances sont limitées à 120 watts, et donc à 21 dB watts. Ah, mais t'as pas le droit ? Non, non, attends, non, on te demande pas. On te demande pas ce que tu fais, on te demande ce que tu as droit. Tu n'as pas le droit de rouler à plus de 130, mais tu le fais. Oh non, arrête, tu peux dire que tu ne le fais pas. Bah non, mais bon, voilà. Allez. Mais en tout cas, tu roules à plus de 50 en ville. T'as beaucoup de chance. Non, arrête. Enfin, en tout cas, tu pourrais le faire. Voilà. C'est pas bien, mais tu peux le faire. Et ben pour les émissions, c'est pareil. C'est pas bien, mais tu peux le faire.
Sur la route comme au boulot.
Ben oui.
C'est pas une profession.
Et donc, compte tenu de cette belle formule-là, puisque plus j'augmente ici ma puissance d'émission, mais ça ne bouge pas, donc mes rayonnements non essentiels sont toujours inférieurs à 43 décibels. 43 décibels porteuses et 43 décibels porteuses, ou 43 décibels watts, ça correspond à 50 microwatts. Donc, nos rayonnements non essentiels, de par cette formule-là, ne peuvent être jamais supérieurs à 43 décibels watts, donc 50 microwatts. Donc ça ne veut pas grand-chose. C'est-à-dire que vous avez votre émission fondamentale et les rayonnements non essentiels, donc ce qui est en dehors de l'émission fondamentale, ça doit faire au maximum 50 microwatts, quelle que soit la puissance que vous utilisez. Donc c'est quand même pas grand chose. D'où l'intérêt d'avoir votre générateur de ton, voir si vous générez pas des émissions en dehors de la bande sur laquelle vous souhaitez émettre. Alors, que sont et où se situent les rayonnements non essentiels ? Alors, la définition du RR, ça veut dire que ce que l'on émet en dehors de sa bande doit être moins fort que ce qu'on est censé émettre. Je vais montrer un graphique après. Donc, avec le graphique, je pense que vous allez mieux comprendre. On va continuer les définitions, on va voir le graphique après. Donc, que sont ces rayonnements non essentiels et où se situent-ils ? Les rayonnements non essentiels sont les émissions non désirées, qui ne sont pas dans le domaine des émissions hors bande, qui sont des rayonnements adjacents à la bande passante nécessaire pour l'émission. Et on va voir le schéma après. Et la frontière entre les rayonnements non essentiels et les émissions hors bande se situe à 2,5 fois la bande passante nécessaire, de part et d'autre de la fréquence centrale d'émission, et pas moins de 10 kHz pour les fréquences inférieures à 30 mégas, 62,5 kHz de 30 à 1 méga, 250 kHz à de 1 à 10 gigas. Une fois qu'on a dit ça, on est, et c'est que le début, hein, ne vous inquiétez pas. Donc en fait, nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt ces données-là. Et maintenant, on arrive à notre schéma. Ici, c'est le milieu de la fréquence d'émission. On est au milieu. Qui n'est peut-être pas l'endroit où il y a le plus d'émissions. Hein. Ça ne veut rien dire du tout. En tout cas, l'émission, la bande passante, elle va de là à là. Ça, c'est par exemple mon émission en BLU. Ici, je commence ici à 400 Hz et je finis ici à 2700 Hz. Ici, et donc entre les deux, bah, j'ai 2400 Hz de bande passante. Ok ? C'est donc ma bande passante. Ensuite, j'ai les émissions hors bande. Quand on parle d'émissions hors bande, c'est pas hors bande radio amateur, c'est hors bande passante. Donc, il y a une zone là où on dit, bah, de toute façon, on va avoir des émissions non désirées. Donc, bah, celle-là, je ne m'en occupe pas, je vais aller un peu plus loin. Et ce un peu plus loin, ça conduit ici, donc à 2,5 fois la bande passante, ou au minimum 10 kHz, quand je suis sur pour les fréquences inférieures à 30 mégas, et 62 kHz quand je suis au-delà. Enfin, sauf si vous voulez vraiment aller au-delà, enfin, sur un giga, mais il y a quand même un peu moins de monde. Il y a du monde sur 144-432, mais sur un giga 2, ça commence à être un petit peu plus... il y a un peu moins de monde. Voilà. Et donc là, je mesure deux fois la bande passante ou mes 10 kHz, et je me reporte ici, là, donc, et c'est à cet endroit que je dois avoir mon atténuation qui fait 43 décibels plus 10 logs de P. Puisque ici, dans mes émissions en bande, j'en ai, l'atténuation, elle n'atteint pas ces 43 décibels, mais lorsque j'arrive ici à la fin des émissions en bande, là, je dois y accéder. Donc, les termes, la bande passante, c'est ce que j'émets, ma fondamentale. De chaque côté, des émissions non désirées. Vous remarquez que c'est la même chose d'un côté et de l'autre. Hein, là, c'est la fréquence. Là, donc, c'est ce que je vois à l'analyseur de spectre. Ici, j'ai ma fréquence et je regarde ce qui se passe de chaque côté de ma fréquence. Si vous voulez aussi, c'est ce que vous avez, les waterfalls sur les SDR. Là. Vous voyez ce qui se passe sur l'intégralité de la bande, ou au moins la bande qui est visualisée. Et donc, il y a une partie que vous ignorez, parce que vous savez parfaitement qu'ici, vous ne tiendrez pas. Quand vous êtes juste à la limite de votre bande passante, ben, vous n'arrivez pas à avoir une atténuation aussi énorme. Parce qu'après, il y a des filtres, hein, donc les filtres, un peu difficiles. Quand on se retrouve ici, on doit avoir cette atténuation qui est définie par le RF. Donc, émissions non désirées se décomposent en émissions hors bande. Ce sont donc les émissions adjacentes à la bande passante, mais qui sont à une certaine distance du centre, ici, de l'émission. Qui n'est pas spécialement, encore une fois, l'endroit où il y a le plus d'émissions, où il y a le plus de puissance. On peut très bien imaginer, ici, là, dans mon schéma, j'ai ici un maximum de puissance ici, un maximum de puissance ici, mais pas ici, pas au milieu. Et puis on peut l'avoir tout à fait aussi, le maximum de puissance décentré d'un côté ou de l'autre, hein, peu importe. Hein. Ça, c'est pas... Ce qui est important, c'est de définir ici ces rayonnements non essentiels. Donc ce sont des émissions non désirées qui sont au-delà des émissions hors bande. Et donc dont l'atténuation doit être définie, et l'atténuation doit être au moins de 43 dB plus 10 logs de P. Et quand on parle de puissance ici, c'est la puissance ici maximum évidemment, et non pas la puissance juste de l'émission centrale. C'est la puissance ici, crête, de ma bande passante. Exemple pratique, alors, Je l'ai mis, mais on va pas peut-être pas trop insister parce que c'est un peu compliqué. Voilà, donc si vous voulez revenir dessus, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de question à l'examen, je vous rassure. Donc c'est si vous voulez vraiment aller un peu plus loin et voilà, bricoler. Alors juste pour avoir une idée un petit peu des enjeux. Ici, je me suis amusé à calculer le niveau des rayonnements non essentiels pour 10 watts sur 14 mégas en BLU. Et ça me donne, dans cet exemple-là, 100 microwatts. Et pour une puissance de 100 watts sur le 2 mètres en FM, avec une excursion de 6 kHz, ici, ça me donne une puissance des rayonnements non essentiels de 50 microwatts. Donc, vous voyez, 10 watts, on a droit à 100 microwatts, et 100 watts, on n'a plus qu'à 50 microwatts. Donc, finalement, le décamétrique est peut-être plus facile à bricoler que le 144 ou les fréquences supérieures, ou le 50 mégas d'ailleurs, puisque on arrive à la même chose. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous avez le droit de revenir dessus pour comprendre un petit peu. C'est très technique, hein, donc si vous n'avez pas les connaissances techniques encore, ne cherchez pas trop. Si vous les avez, essayez de comprendre. Mais si vous ne les avez pas, cherchez pas, ça ne sert à rien. Et il n'y a pas, encore une fois, pas de questions à l'examen. Dernier point sur les conditions techniques, c'est tout ce qui concerne la réinjection de HF dans le réseau EDF. Ça, c'est très important pour éviter que la HF remonte dans le réseau EDF et perturbe vos voisins, vous-même, voilà, quand même un petit peu gênant. Et donc, il y a une norme qui s'appelle la CISPR 11, qui est la norme utilisée actuellement. Dans cette norme, il y a plusieurs types de matériel. Nous, on est dans le groupe 2, donc c'est du matériel d'émission radioélectrique. Et de classe B, c'est un usage domestique et non pas un usage professionnel. L'usage professionnel, c'est classe A. Et donc, ces perturbations, selon la norme CISPR 11, ne doivent pas dépasser 2 millivolts à 0,15 MHz, 0,63 à 0,5 MHz, puis 0,63 millivolts entre 0,5 et 5, et 1 millivolt entre 5 et 30 mégas. Donc quand on regarde ça de manière plus détaillée, ici je vous ai mis, alors je vais faire un agrandissement de ce que doit être, donc ça c'est en millivolts, et c'est les millivolts HF qui ne doivent pas être renvoyés dans le réseau EDF, donc c'est à cette forme-là. Ici, il y a les fréquences en mégahertz. En vert, il y avait la norme 55011, qui est très ancienne, qui est devenue obsolète, voilà, qui était là, qui avait deux niveaux. Et la CISPR 11, en fait, elle ressemble un petit peu, mais elle est un peu plus méchante, je dirais, sur le côté début des bandes décamétriques. Puisque ici c'est 500 kHz et ici c'est 3,5 mégas de mémoire, ou 4, je ne sais plus. Nanana, ah, 5 mégas, pardon. On va y arriver. Voilà. Donc ici, entre 500 kHz et 5 mégas, on est à 0,63 volts. Mais ça ressemble un petit peu. C'est pas beaucoup, hein, ces millivolts là, c'est pas beaucoup, hein. Et c'est pour ça que l'ANFR, je suppose, dit que les alimentations doivent être filtrées, puisque si vous achetez une alimentation, elle a un joli logo CE sur, enfin, au dos, quelque part, et que s'il y a le logo CE, c'est qu'elle respecte les normes, et notamment la CISPR 11. Voilà. En revanche, si vous fabriquez vous-même votre alimentation, ben faites attention à ce qu'il y ait des filtres adéquats. Mais ça, on les plante des filtres, on les trouve très facilement sur Internet. Alors, il faut quel ordre de grandeur de puissance en watts pour parler à Thomas Pesquet, par exemple? Alors, pour parler à Thomas Pesquet, d'ailleurs, d'abord, Edin, vaut mieux éviter de lui parler, surtout pour le QSO de demain, parce que c'est, voilà, il y a une station qui est faite pour ça. On va dire que, alors, tout dépend où est l'ISS. Si l'ISS est au-dessus de nos têtes, dans ce cas-là, je pense qu'avec un simple pocket, donc 3-4 watts, on doit y arriver. En revanche, comme demain, l'ISS passe assez loin au-dessus de l'Algérie, par là, je crains que, donc du coup, la distance, ce n'est pas 400 km, ça va être plutôt du 2000 km, et en plus, on va viser un peu l'horizon, donc peut-être la couche des nuages va faire quelques atténuations. Voilà, donc je pense qu'il faudra un peu plus de puissance, et à mon avis, une cinquantaine, peut-être 100 watts. Mais ça se fait sans problème avec des moyens radioamateurs. Et encore, demain, le contact avec Thomas Pesquet, c'est sur 145-800. Donc vous pouvez être sur 145-800 MHz, en réception, bien entendu. Et puis l'antenne, je pense qu'il faudra une antenne directive, ça sera meilleur, je pense. On aura plus de chances d'avoir quelque chose qu'avec un simple pocket. Et on est en FM. Enfin, il y a... Voilà. Et enfin, il y a une norme qui concerne le matériel radioamateur, hein, comme tout type de matériel, il y a des normes. Donc, cette norme, c'est une norme européenne, donc c'est EN, hein, norme européenne, et c'est la 301-783 qui fixe les caractéristiques techniques des équipements de radioamateurs mis sur le marché européen. Et donc, encore une fois, c'est le petit logo CE que vous trouvez au cul de vos appareils. Et donc, il y a quelqu'un qui a dû... alors, on verra quand on parlera de cette conformité des matériels, que c'est pas aussi simple que ça, mais en théorie, il doit y avoir des tests qui sont faits en laboratoire pour être certain que ce soit conforme à ces caractéristiques à respecter. Et donc ces caractéristiques, c'est des caractéristiques en émission, notamment rayonnement d'onde essentielle dont on vient de parler, mais aussi en réception, et là c'est plutôt immunité aux perturbations électromagnétiques, c'est-à-dire ne pas être perturbé par, la mobylette qui passe du voisin, qui passe devant chez vous, et que du coup vous n'entendrez rien du contact. Enfin, comme la mobylette, normalement, elle doit aussi faire en sorte de ne pas perturber. Voilà, chacun fait, les perturbateurs doivent générer le minimum de perturbations et les perturber, faire en sorte que le peu de perturbations qui existent, ce ne soit pas, ça pose pas problème. Les questions posées à l'examen. Donc, alors, dans les questions... on peut avoir soit la question, c'est-à-dire on définit un code et il faut donner la codification avec les trois caractères, ou inversement, on a les trois caractères et on demande quelle est la définition. Il y a les deux possibles. Voilà. Donc, quelle est la classe d'émission pour transmission de données, modulation de phase sans support? Sans emploi de porteuse modulant. Transmission de données, ça finit par un D, donc ça ne peut être que la 1 la 2 ou la 4, pas de chance. Modulation de phase, G. Ah, ça y est, G, D, j'ai pas d'autre G. Donc ça ne peut être que la 1. Et sans emploi de toute porteuse modulante, je sais pas trop ce que c'est que ce truc-là. Je suis même pas certain que ça existe, mais peu importe. C'est donc G1D, si vous trouvez un mode qui fonctionne de cette manière-là, je suis preneur. Pas certain que ça existe. Mais en tout cas, c'est une question d'examen. Que signifie la codification J3E? Donc là, encore une fois, je fais ça à l'envers. E, téléphonie. J, BLU. Et comme je suis en téléphonie, je n'ai pas besoin de dire que le 3, c'est de l'analogique. Donc, dans mes réponses, j'ai téléphonie, bande latérale unique, porteuse supprimée, puisque c'est le J et non pas le R, puisque le R, c'est porteuse réduite. Pour une fois, il y a un code qui marche bien, R comme réduite, ça marche. Mais le J, je vois pas à quoi ça peut correspondre. Un radioamateur de l'ex classe 3 peut émettre en classe d'émission G3E et G3C, F2B et J3A, F3E et J3E, R3E et A2D. Alors, un radioamateur de classe 2 ne peut émettre qu'avec des codes qui finissent par un A et un E. Donc, A comme télégraphie automatique, les radioamateurs, les F0, peuvent faire du morse. Sur le 144, il n'y a pas grand monde, ok. Mais ils peuvent faire du morse. Donc là, je cherche qu'est-ce qu'il y a comme réponse où il y a à la fois le A et le E. Et bien, j'en ai qu'une seule qui est la troisième, la F3E et J3E. Donc, FM, BLU en téléphonie. Voilà le fameux, la fameuse question. Alors, c'est une question qui commence à dater un petit peu. J'en ai pas revu récemment, mais pourquoi pas, ça peut peut-être revenir. À quel type de modulation correspond le dessin ci-dessus? Enfin, ci-dessous, pardon. Donc ça, c'est du morse, hein, j'aimais ou j'aimais pas, c'est typiquement ça, c'est la lettre N. Voilà, donc c'est du tout ou rien. Il n'y a pas marqué morse, mais il y a marqué tout ou rien, moi ça me va bien. Ce n'est pas de la M, ce n'est pas de la FM, ce n'est pas de la B. Désignation d'une largeur de bande de 10,4 kHz. Donc, je remplace ma virgule par le signe du préfixe multiplicateur, là, qui est le K. Donc, ça me fait 1, 0, K, 4. Et j'ai bien mes 4 caractères. Donc, c'est bien le dernier. Et non pas tous ces trucs complètement improbables que j'ai au départ. Et évidemment, ces deux questions-là, pour moi, sont hors programme, parce que on n'évoque pas ça dans le programme de l'examen de réglementation, ni d'ailleurs dans le programme de technique. Donc pour moi, c'est hors programme. Après, il faut batailler avec la NFR, et bon, c'est peut-être pas la peine d'aller jusqu'au Conseil d'État pour régler ce problème. Condition technique, quel est l'élément obligatoire dans une station de radioamateur? Un oscilloscope, un ordinateur, une charge rayonnante, un indicateur de puissance. Une charge rayonnante, c'est. Alors, une charge rayonnante, par définition, c'est une antenne. Une charge non rayonnante, c'est mieux. Voilà, et donc tous les autres ne sont pas. Sont pas obligatoires, donc c'est l'indicateur de puissance. Quelle est la bande passante? Alors ça, c'est une question qui est assez ancienne, mais qui montre bien ce que veut montrer la NFR. La bande passante, là, ça va donc de 720 à 740, donc il y a 20 de bande passante. Hein, c'est la largeur ici, entre le maximum et le minimum, donc c'est 20. Et c'est pas 720 ou 730 ou 740 qui sont des valeurs. Quand on parle de largeur, bah c'est l'écart qu'il y a entre le plus grand et le plus petit. Quelle est la largeur de bande passante maximum pour le 28 mégas? C'est 12 kHz. 6 kHz en dessous de 28, 12 de 28 à 144, donc jusqu'au début de la bande 144, 20 kHz de 144 à 225, 225 c'est une bande en région 2, donc aux Antilles, en Guyane notamment, et pas de limite, c'est tout ce qu'il y a au-delà de 225 mégas. Et sur quelle... Alors ça, question très tordue. Sur quelle bande de fréquence la télévision est-elle autorisée? Première réponse sur toutes les bandes autorisées. Deuxième uniquement sur la bande 430 mégas. Trois sur toutes les fréquences supérieures à 225 mégas. Et l'émission en télévision nécessite une autorisation individuelle de l'ARCEP. Ça, maintenant, c'est faux. C'était vrai avant, maintenant, c'est faux. Enfin, avant 85. Donc, ça commence à dater un petit peu. Voilà. Sur toutes les bandes. Pas vraiment, puisque la télévision, par définition, a besoin d'une grande bande passante. Et cette bande passante, elle est au moins de 20 kHz. Généralement, c'est au moins 1 méga. Et donc, ce sont sur les bandes où la largeur de bande n'est pas limitée qu'on peut le faire. Donc, sur toutes les fréquences supérieures à 225 mégas. Donc, par exemple, le 430 mégas. Mais, en règle générale, c'est plutôt au-delà sur du 1 giga 2 ou du 2 giga 4. Donc, c'est pour ça que je dis que cette question est extrêmement tordue, c'est-à-dire que pour cette partie de réglementation, il faut avoir quelques notions de technique pour pouvoir y répondre. Quelques questions sur la réglementation antérieure à 2012. Ce sont des questions qui sont posées assez régulièrement. Précision de l'affichage pour une fréquence supérieure à 29,7. Donc c'est le 10 puissance moins 5. Alors précision de l'affichage. Non, précision de l'affichage c'est 10 puissance moins 4. Donc c'est le suivant, c'est le premier. Ensuite, la dérive de fréquence, là, c'est la stabilité des oscillateurs. Et c'est 5, 10 puissance moins 5. Donc c'est, encore une fois, le premier. Et une station radioamateur doit être munie d'un filtre secteur. Eh bien, moi, je dirais oui ou non, je ne sais pas. Mais normalement, le filtre secteur... pour moi, n'est pas obligatoire, puisque à partir du moment où votre alimentation a le logo CE, c'est qu'elle est aux normes. Donc, c'est pas la peine d'en rajouter. Normalement, une alimentation, alors sauf si c'est vous qui l'avez fabriqué, hein. Si c'est vous qui l'avez fabriqué et qu'il n'y a pas de filtre secteur à l'intérieur de du matériel que vous avez construit, oui, il faut un filtre secteur. Et si vous utilisez du matériel du commerce, avec le logo CE, il n'y a pas besoin. Donc là, je ne sais pas quoi, répondre. Tu l'as. Bah, tu l'as d'origine. Il est dans le câble d'origine, donc ce n'est pas la peine de le rajouter.
Oui, mais c'est le câble
d'origine. Peut-être. Mais ce n'est pas la peine d'en rajouter un, hein, du coup. De rajouter un filtre secteur en plus.
Ah, oui. C'est parce que je n'ai pas compris, en fait, quand il est dans les normes, c'est haut.
Bah oui,
haut, et le maire
est... Mais oui, mais c'est ça qui est tendu, c'est que dans cette...
Mais j'en ai vu une autre, il n'y en a pas, ce local. Ou alors, il est à l'intérieur.
Il est à l'intérieur, la plupart du temps, il est à l'intérieur. Pour avoir le logo CE, il faut qu'il y en ait un. Donc, la plupart du temps, il est à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai mis oui, mais je ne sais pas trop. Donc, la réponse, là, malheureusement, je ne la connais pas. Sur les rayonnements non essentiels, quelques questions. Alors, des vieilles questions. Pourquoi vieilles? Parce que, auparavant, ces rayonnements non essentiels étaient définis par rapport à la puissance. Et les questions qui ont été recensées récemment, on a toujours cette notion de puissance. Or, dans l'appendice 3 du RR, on ne parle pas de puissance, enfin, on en parle, puisque c'est dans la formule. Voilà. Et, coup de chance extraordinaire, dans l'ancienne réglementation, les rayonnements non essentiels, enfin, c'était 50 dB pour une puissance au moins égale à 25 watts, et 60 dB au-delà. Là, c'est 24 mégas et 25 watts, et coup de chance extraordinaire, ça match avec la nouvelle définition. Donc, cette question existe, enfin, est toujours valable, mais sauf qu'il est perturbant, ici, c'est la puissance, puisque la puissance, ça ne veut rien dire. Donc, moi, je suis toujours avec mes 50 dB. À cause du RR. Alors que ça, c'était les définitions de l'ARCEP. Et autre question un peu tordue quand même, dans quels documents sont consignées les limites des rayonnements non essentiels? Évidemment, c'est dans l'appendice 3 du RR de l'UIT. Alors je ne suis pas certain que la réponse soit écrite de cette manière dans la question à NFR. Mais voilà, la bonne réponse précise, c'est ça. La réponse, ça pourrait être dans un document de l'UIT, tout simplement. Là, j'ai été super précis. Ou dans une norme internationale. C'est puisque l'ERR de l'UIT, c'est une norme internationale. Après, je ne sais pas précisément quelle a été le terme exact de la réponse à NFR. En tout cas, les autres réponses sont dans la réglementation radioamateur, nous, elle n'y est plus. Dans la documentation disponible auprès des radioclubs, peut-être que ici oui, dans d'autres radioclubs peut-être pas. Dans un document publié par la NFR, non, la NFR n'en a rien à faire. C'est l'ARCEP. La NFR, elle contrôle que ce qu'a défini l'ARCEP est bien appliqué. Mais c'est pas la NFR qui a publié un document. Elle contrôle juste. Voilà. Rayonnement. Alors, niveau de puissance maximum pour les rayonnements non essentiels sur la bande des 144. C'est. Alors, ça, c'était une question quand même tordue parce que quand je l'ai vu arriver, celle-là, je me dis oulala. Et c'est là que j'ai rajouté tout mon calcul pour dire que sur 144, les niveaux de puissance pour les rayonnements non essentiels sont limités à 64 dB. Hein, c'est mes fameux 43 plus 21, puisque, encore une fois, mes 120 watts correspondent à 21 dB watts. Donc je fais 43 plus 21. Ça me fait donc 64 dB watts. Enfin, dB. Et donc, par rapport à mon émission fondamentale. Et puis enfin, donc ça c'est une question existante, mais on pourrait aussi avoir des questions comme j'ai inventé ici, qui serait, enfin, moi qui m'irais bien parce qu'il n'y a pas de calcul à faire, quelle est la formule générale déterminant la valeur maximum tolérée des rayonnements non essentiels? Donc c'est cette formule-là, 43 plus 10 log de P, et non pas le reste. Et qu'est-ce qu'un rayonnement non essentiel? Une émission hors bande, l'ensemble des émissions d'ondes désirées non adjacentes à la bande passante, rayonnement parasite en dehors des bandes radioamateurs, toute émission en dehors de la bande passante du signal émis. Alors la bonne réponse c'est ensemble des émissions non désirées et non adjacentes à la bande passante. Ça c'est une définition de l'UIT ça. Alors c'est peut-être super compliqué, mais on retrouve bien tous les éléments dont on a parlé tout à l'heure dans le superbe graphique. On revient dessus. Voilà. Donc c'était des émissions non désirées, non adjacente à la bande passante. Puisque les émissions adjacentes à la bande passante, ce sont les émissions hors bande. Hein, adjacentes, ça veut dire qu'ils sont proches. Toc, on a vu ça. On a vu ça. Et ben voilà, il suffit maintenant que je vous souhaite un très bon week-end. Et à la semaine prochaine. Bye bye.